Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Après la droite hier et les discours de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est au tour de la gauche aujourd'hui d'occuper l'espace médiatique, et notamment la gauche de la gauche avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, une étiquette que le candidat à l'élection présidentielle ne veut plus qu'on lui colle, nous expliquera Laurence Perron. 20 morts et plus de 50 blessés ce matin dans le nord de la Syrie, suite de l'opération bouclier de l'Euphrate menée par la Turquie qui veut faire reculer les positions des combattants kurdes. Précision d'Omar Waman. Nous irons également en Iran, où plusieurs dizaines de concerts ont été annulés ces dernières semaines. Les conditions se durcissent pour organiser des manifestations musicales. Plus de 5000 artistes ont signé une lettre ouverte au président Hassan Rouhani. Et la crise du lait continue en France. Éleveurs et industriels se déchirent toujours autour du prix d'achat des 1000 litres. Une nouvelle marque où les consommateurs peuvent décider eux-mêmes de la rémunération des éleveurs va peut-être apporter une solution à ce problème. Il s'est lancé seul et sans passer par aucune primaire, avec pour but ultime devenir président de la République. Jean-Luc Mélenchon fait sa rentrée politique aujourd'hui à Toulouse. Fort de ses 11% lors de la dernière élection présidentielle en 2012, l'ancien leader du Front de Gauche veut cette fois voir plus large et élargir son spectre électoral pour se donner les moyens de son ambition, Laurence Perron.
Ne dites jamais à Jean-Luc Mélenchon qu'il est la candidature de la gauche, il vous prendra pour un cancran politique. L'insoumis en chef voit plus loin. Il est, dit-il, le seul bulletin de vote stable et sûr. Fini le « je suis le bruit et la fureur » de 2012, il se pose en rassembleur d'une France malmenée par le libéralisme et son avatar de gauche, la social-démocratie, inféodée, dit-il, aux diktats de Bruxelles et de Berlin. Lorsque semblant flotter sur les eaux, place Stalingrad en juin, il a interpellé la foule. C'était au nom des 100 costards, des 100 Rolex, des signé à résidence, de ceux qui, martèle-t-il encore, ne veulent plus de cette monarchie présidentielle. Il le redira encore cet après-midi, lui élu président, il sera le dernier, convoquant aussitôt une assemblée constituante qui fondera la 6e République. Au Arnaud Montebourg, au Benoît Hamon, qui la défend aussi, cette 6e République, il répond tant mieux, il travaille pour moi. Sur la question de l'immigration, sans une inflexion, lui, l'internationaliste, s'est attaqué aux travailleurs détachés, fermant du dumping social, tout comme il concède que l'exil n'est pas toujours une chance. Ne lui dites pas non plus qu'on pense à Chevènement, l'homme de 2002 appartient à cette classe politique du 20e siècle, que lui, l'insoumis du 21e, entend reléguer aux oubliettes de l'histoire, qu'on ne lui fasse pas le coup de la responsabilité d'un nouveau 21 avril.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pourtant pas épargné, ce dimanche par un sondage Odoxa paru dans Le Parisien, 59% des Français ont une mauvaise opinion de lui. Il reste tout de même préféré à François Hollande, signe que cette candidature est la bonne pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, cette tactique en solo n'est pas du goût de tout le monde à gauche. Certains tentent de le rappeler à la raison et appellent à l'unité. Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, par exemple, veut rassembler au maximum les déçus du quinquennat pour aboutir à une candidature unique. Pierre Laurent n'abandonne pas l'idée de convaincre Jean-Luc Mélenchon.
Il serait désolant dans la situation dans laquelle nous sommes, avec le danger qui existe évident, de faire partir les forces qui veulent tourner la page du fiasco du quinquennat de François Hollande. Il serait désolant que ces forces ne partent pas ensemble. Donc je vais mettre toute mon énergie à mettre en avant le commun qui existe entre ces forces pour essayer de les faire converger. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce qu'il soit possible d'y parvenir, parce que je pense que c'est la nécessité du moment. Je constate que ce commun dont je parle existe. Je vais écouter tout à l'heure avec beaucoup d'attention le discours de Jean-Luc Mélenchon, et je sais, pour avoir beaucoup travaillé avec lui, qu'il y aura du commun entre ce qu'il va dire et ce que nous avançons. Ça veut dire que pour moi, Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats déclarés ou potentiels dans tout cet espace politique ne sont pas pour moi des adversaires. Ils sont pour moi potentiellement toujours évidemment des partenaires. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux avec lesquels je souhaite continuer à travailler.
Pierre Laurent, invité ce matin de nos confrères de France Inter. En Syrie, le nord du pays continue d'être la cible d'attaques par l'armée turque. Ce matin encore, 20 personnes ont perdu la vie dans des bombardements à Djoubalkoussa, une localité tenue par des combattants kurdes. La poursuite de l'opération bouclier de l'Euphrate se concentre désormais sur ces combattants, Omar Waman.
Les avions de chasse turcs ont visé ce matin la localité de Jebel Kousa, à quelques kilomètres au sud de Jarabulus, libérée mercredi dernier des djihadistes de Daesh par des rebelles soutenus par la Turquie. Et le bilan est très lourd, au moins 20 morts et des dizaines de blessés, dont une majorité de civils, selon plusieurs sources. Ce regain de tension fait suite à la mort hier d'un soldat turc tué par un tir de roquette, toujours près de Jarabulus, roquette tirée depuis les positions kurdes et des YPG proches du PKK, des combattants kurdes qui refuse toujours de se retirer plus au sud, comme leur avait demandé leur allié américain en la personne de Joe Biden, le vice-président des États-Unis, de passage à Ankara la semaine dernière. L'armée turque, qui a renforcé ses lignes, compte bien repousser ses combattants kurdes afin de mettre un coup d'arrêt à leur expansion dans ce nord-est de la Syrie où ils accumulaient les victoires territoriales et où ils étaient sur le point d'unifier leur région, le Rojava, entité fédérale proclamée en mars dernier. Cette perspective est synonyme de cauchemar pour Ankara, qui met sur le même plan la lutte contre les djihadistes de Daesh et son combat contre les autonomistes kurdes.
Précision d'Omar Waman. Direction l'Iran maintenant, où plusieurs dizaines de concerts ont été annulés ces dernières semaines. Des conditions de plus en plus strictes sont nécessaires pour organiser des manifestations musicales, notamment que le ministère de la Culture puisse assurer le contenu de ce concert, mais aussi que la police puisse le filmer. Une situation paradoxale, Siavash Ghazi, quand on sait que depuis plusieurs mois, les concerts avaient tendance à se multiplier en Iran.
Quelques 5000 musiciens ont écrit au président Hassan Rouhani pour lui demander de défendre leurs droits et la loi. Ils protestaient notamment contre l'interdiction des concerts dans la ville sainte de Mashhad, la seconde ville du pays située dans le nord-est de l'Iran. À la mi-août, en effet, le ministre de la Culture a renoncé à organiser tout concert dans cette ville par respect à la présence du mausolée de l'imam Reza, le 8e successeur du prophète Mahomet, selon les musulmans chiites. Cette décision a été prise après les mises en garde de l'imam de prière de la ville, le religieux conservateur Ahmad Alamolhoda. Ce dernier avait en effet affirmé que les habitants religieux de la ville ne laisseront pas qu'il y ait des concerts à Mashhad. Le ministre de la Culture voulait en effet autoriser des concerts dans la ville, alors que depuis 11 ans, aucun concert n'y a été organisé. Finalement, il a dû faire marche arrière, ce qui a provoqué la colère du président Rouhani, qui a publiquement critiqué son ministre de la Culture en affirmant qu'il ne fallait pas céder aux pressions. Depuis, d'autres religions ont également demandé l'interdiction des concerts dans leur ville. Ils critiquent en effet la mixité dans le concert et le fait que certains y dansent, ce qui est interdit. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Rouhani il y a 3 ans, le nombre des concerts a fortement augmenté dans le pays, mais pour certains religieux conservateurs, il s'agit de promouvoir la culture occidentale.
Siavash Ghazi. Les menaces du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont visiblement pas beaucoup de poids sur la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang a menacé aujourd'hui de réduire en cendres les forces américaines, quelques jours après le lancement d'un nouveau projectile par un sous-marin nord-coréen. Le pays multiplie les essais de missiles nucléaires depuis le début de l'année. Retour en France, où la crise du lait n'est toujours pas réglée. En fin de semaine, 2 sessions de négociations ont échoué à trouver une sortie de crise. Les éleveurs souhaitent que Lactalis augmente son prix d'achat pour au moins s'aligner sur ses concurrents. Ils sont soutenus par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il estime que Lactalis ne peut pas payer le prix le plus bas en France. Face à cette crise, la solution pourrait bien venir des consommateurs, avec cette nouvelle brique de lait qui pourrait faire son apparition dans les supermarchés. Son nom, la brique du consommateur. Tous les critères sont fixés par ces derniers, et notamment le prix auquel doit être rémunéré l'éleveur. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les consommateurs sont prêts à mettre la main au porte-monnaie, explique Nicolas Chabanne, il est à l'origine de ce projet.
Vous avez un cours du lait, vous le verrez sur internet, avec une baisse, on passe quasiment de 40 centimes par litre de lait à aujourd'hui 26 centimes. Tout le monde a constaté que le camembert président n'avait pas vraiment baissé dans les mêmes proportions. Il a d'ailleurs jamais baissé. Donc on voit qu'il y a un problème entre un prix du lait qui est de moins en moins payé et un produit que le consommateur paye toujours aussi cher. Alors soit, on va reprendre les choses, nous, à notre niveau. Les gens vont pouvoir se rendre compte de où va l'argent, à qui ça profite. Est-ce que le producteur est une victime indirecte du système qu'on alimente ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient un partenaire? Donc oui, on gagne d'un point de vue de la qualité des produits, de la traçabilité des produits, mais on gagne aussi dans le plaisir de savoir qu'on achète un produit qui n'est pas en train de tuer finalement le producteur à l'autre bout.
Nicolas Chaban à l'origine de cette brique des consommateurs. La météo de votre après-midi, il n'y a plus aucun département en vigilance orange à la canicule. Météo France prévoit un ciel couvert sur l'ouest et le centre du pays. Les températures vont baisser 27 degrés en moyenne et jusqu'à 32 degrés du côté de Strasbourg.